matin, nous allons revenir à une série d'études que nous avons commencé il y a pratiquement 2 mois maintenant. On a eu plusieurs événements, notamment la fête des pères et même la fête des mères qui sont intervenus un peu coupés. Cela, et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que je suis convaincu est très très important. On avait parlé des vérités moteurs pour ceux qui étaient là quand on a commencé, et voilà, ça remonte un peu. Donc brièvement, nous avons parlé de la foi, cette foi objective, c'est-à-dire cette dépendance. C'est pas simplement de croire, être d'accord avec un ensemble de vérités, mais placer sa foi, sa dépendance sur quelque chose, ou plus exactement sur quelqu'un, Jésus-Christ. Et que c'est aussi vrai pour l'inconverti qui doit se convertir et pour se faire placer entièrement sa foi, sa confiance en Dieu, mais aussi pour le chrétien, continuellement de faire cela. On a parlé également, après cela, de la grâce et la méga-grâce. Quand Jacques il parle d'une grâce plus excellente, hein, c'est une méga, méga-grâce. Et puis aussi, nous avons parlé de la vie en abondance. La vie dans 1 Jean, nous avons examiné des versets là, c'est cette vie en abondance que les chrétiens doivent expérimenter. Et du coup, voilà, nous avons vu ces 3 aspects. Maintenant, aujourd'hui, nous venons à un autre aspect. Et ceci est très important parce que cette foi que nous manifestons, cette grâce que Dieu déverse en nous et qu'il veut voir se manifester à travers nous, et puis cette vie en abondance, ce n'est pas que pour nous. Ce n'est pas que pour nous. Non, il faut que cela soit vu autour de nous. L'illustration est racontée qu'un jour, un homme, il est venu de très loin à Londres pour entendre Spurgeon. Donc, cet homme qu'on appelait le prince des prédicateurs, j'aurais bien aimé pouvoir l'entendre, mais bon, un jour au ciel, on l'entendra. Mais cet homme venu de très loin, et là, il arrive à l'église dans laquelle Spurgeon, il avait l'habitude de prêcher, et là, malheureusement, il n'y avait plus de place, il ne pouvait pas entrer. Donc, un des hommes qui était là, le voyant un peu déçu par cela, il lui dit, ben, écoute mon ami, je te cède ma place à une seule condition, c'est qu'à la fin du message, ben, tu viens me raconter ce que tu as pensé de mon prédicateur Spurgeon. Donc, le monsieur, il dit, d'accord, je le ferai. Donc, cet homme lui cède la place, il sort. Il attend la fin de la prédication, il voit l'homme sortir de la salle, et puis il le dépasse, et puis continue sur son chemin, comme s'il avait oublié. Donc celui qui avait cédé sa place, il se dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il court après lui, il dit, mais mon ami, tu m'avais dit que tu allais me parler de ce que tu pensais de mon prédicateur Spurgeon. Et l'homme, il se retourne et il dit, honnêtement, je dois vous dire, Spurgeon, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu que Jésus-Christ, parce qu'il avait parlé d'une telle façon. Et bien sûr, Spurgeon n'était qu'un homme, on le sait. Mais il y avait ces hommes qui ont marqué l'histoire, pas simplement par ce qu'ils ont fait, mais par la vie qu'ils avaient. On peut penser à Spurgeon, on peut penser à George Muller également, cet homme de foi à Bristol. On peut penser à un de mes grands hommes de l'histoire chrétienne préférée, Hudson Taylor, la foi qu'il a manifestée. Et ces hommes, il y a aussi beaucoup de femmes. Et on pense à leur vie et on se dit, oui, eux, ils ont marqué. Eux, ils ont eu un impact sur leur entourage, non pas à cause de ce qu'ils étaient, mais à cause de ce que Dieu a fait à travers eux. Et il faut se poser la question, honnêtement, devant Dieu, que voit-on lorsqu'on regarde ma vie? Avons-nous ce même impact qu'un Spurgeon, qu'un Hudson Taylor? Et on pourrait continuer à citer les noms. Il est formidable si nous grandissions en nous-mêmes, dans la connaissance de Dieu, dans sa grâce, dans la foi. Cela est formidable. Mais est-ce que c'est vu à l'extérieur? Ou sommes-nous simplement comme une éponge? Vous savez, une éponge, ça prend de l'eau, puis ça gonfle, c'est impressionnant parfois. Quand une éponge est tout desséchée, ben, elle devient tout petite. Et puis, on met de l'eau, et puis ça grandit 5, 10, 20 fois plus. Et puis, si on ne fait rien après, ben, l'éponge, elle reste remplie, mais rien de plus. Sommes-nous comme une éponge? Sommes-nous comme la mer morte? Vous savez très bien, la mer morte, ben, extrêmement salée à un point où ben, on flotte. Même ceux qui ne savent pas nager peuvent aller tranquillement là-dedans, et puis ils flottent. Pas besoin d'autre chose. Bon, c'est très salé, et puis il paraît, d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même assez dégoûtant d'aller se baigner là-dedans, mais bon, on flotte. Mais la mer salée, qui n'est bon à rien, on ne peut pas boire cette eau, on ne peut pas s'en servir pour arroser, sinon on tue les plantes qu'on arrose. Non, c'est cette mer qui est tellement salée, inutile, parce qu'elle reçoit l'eau qui descend du Jourdain, mais il n'y a rien qui sort. Ça se termine là, et puis ça stagne. Et cela devient inutile. Alors, sommes-nous comme une éponge? Sommes-nous comme la mer morte? Est-ce que c'est ça que Dieu a préparé pour nous? Est-ce qu'il nous a préparé une vie médiocre? Est-ce qu'il nous a destiné à survivre à peine dans ce monde condamné? Oui, à cette vie médiocre, sans rien d'extraordinaire, je ne crois pas que ce soit le cas. Et pourtant, trop de chrétiens, et je dois admettre que parfois je tombe là-dedans, nous vivons dans cet état d'esprit, avec la multitude de nos responsabilités, pourtant légitimes, ben oui, nous subissons les attaques du monde, et bien sûr il y a nos propres faiblesses, nos péchés, et du coup, nous passons à côté de ce que Dieu a pour nous. Malgré nos connaissances, malgré même parfois le désir de nous engager et d'aller plus loin, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est là où j'aimerais regarder ensemble avec vous Jean chapitre 7, parce que Jésus, bien sûr, voulait enseigner à la fois à ses disciples, mais à tous et à toute la foule qui était réunie à ce moment-là, où il lisait ses paroles, il voulait leur montrer qu'il y avait autre chose. Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, nous allons commencer au verset 37, nous lirons juste quelques versets jusqu'au verset 39. Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et ici, nous avons Jésus, il est à Jérusalem pour cette semaine de fête qu'il y avait, à la fois fête des tabernacles, et ici, on voit dernier jour, il se lève et il fait ces déclarations que nous voyons au verset 37. Et il commence à expliquer en fait, ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et il le disait à cette foule qui, malheureusement, n'a pas trop compris, mais pour nous, nous pouvons et nous devons comprendre. Parce que Dieu ne veut pas que nous vivions dans la défaite. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie médiocre. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie à moitié. Non, il veut autre chose pour nous. Mais pour ce faire, il faut suivre ce que Jésus dit dans ces versets. Parce que nous voulons tous, le verset 38, ces fleuves d'eau vive qui couleront de son sein, qui vont avoir un impact. Lorsque l'eau se répand, ben, elle a un impact. Elle arrose, elle nourrit, elle fait croître. Elle désaltère. Et nous aussi, nous devons être cela. Mais il nous faut passer, bien sûr, par le verset 37. Du coup, nous allons voir un peu dans les détails ces quelques versets ici pour justement tirer des leçons que nous devons mettre en pratique aujourd'hui pour avoir cet impact. Si nous grandissons dans la connaissance de Dieu et de sa parole, gloire à Dieu, amen, ne gardons pas cela pour nous-mêmes. Cherchons à avancer, cherchons à grandir pour être utiles au service de Dieu, pour avoir un impact sur les autres. Ce serait trop égoïste pour garder toutes ces choses pour nous. Non, il faut les partager. Mais avant de faire cela, il faut les versets 37-38. Et dans le verset 37, nous voyons, première chose, qu'en fait, il faut une initiation divine. Il faut que cela commence avec Dieu. Verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, tout le monde est là. Ils avaient déjà, si on prenait le temps de regarder le début du chapitre, ils avaient déjà entendu l'enseignement de Jésus depuis le début de la fête. Et là, une dernière fois, Jésus se lève et il va crier. Il va lever sa voix et dire ce qu'il suit. Donc ce n'est pas le peuple, la foule, qui réclame ceci, mais c'est Jésus qui dit, voilà, ce dont vous avez besoin, je vais vous le dire. Je vous appelle à ceci, je vous donne cet enseignement, et justement, tout doit commencer avec Dieu. Et nous savons que dans Romains chapitre 3, verset 11, Paul, il va dire, il n'y a nul. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. C'est Dieu qui doit attirer. Même nous, lorsque nous étions inconvertis, il fallait que Dieu quand même nous attire à lui avant que nous soyons intéressés, avant que nous ayons la possibilité de l'accepter. Et Dieu attire, gloire à Dieu. Mais cela doit commencer avec Dieu. Et le verset que nous avons vu, dans Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous donne la volonté, la capacité même de vouloir faire quelque chose, ainsi que la capacité de le faire. Et sans son esprit qui agit en nous, nous ne voudrions même pas faire sa volonté, même en tant que chrétien. Parce que c'est extraordinaire, Philippiens chapitre 2, verset 13 n'est pas écrit à des inconvertis, mais à des chrétiens. Et nous voyons que Dieu doit être à la base de toute décision, de toute chose que nous faisons. Dieu doit être là. Et puis, allons dans Romains chapitre 11. Gardez votre place dans Jean, mais allons dans Romains chapitre 11, parce que Paul, il va expliquer encore, c'est un verset qui est vraiment formidable. Il va expliquer encore ceci pour bien appuyer. Il avait fait au chapitre 3 de cette même épître. Il va le dire aux Philippiens, mais ici c'est quand même assez frappant. Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, et le contexte nous montre bien sûr c'est Jésus-Christ, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. De lui, ça vient de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Rien n'existe sans la volonté de Dieu. Genèse 1. Dieu parla. Le monde est venu à l'existence. De lui, par lui, donc c'est sa capacité, c'est sa puissance, et aussi pour lui, et surtout pour sa gloire, comme Paul va le dire, à lui la gloire, parce qu'il fait toutes ces choses, parce qu'il est là au début, il est à la base, il va initier tout cela. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et Paul, il avait très bien compris ceci. Il n'est pas étonnant qu'il a fait tant pour Dieu. Paul, il a compris ce principe que Dieu était à la base de tout. Et c'est cela qui lui a permis de dire aux Galates, même au début de son ministère, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit à travers moi. C'est Christ qui vit. Et c'est cela qui a permis en Philippiens de dire, plutôt vers la fin de sa vie, mourir, m'est un gain. Vivre pour Christ, oui, gloire à Dieu, amen. Mais même mourir, m'est un gain, parce que même cela glorifie Dieu. Et Paul dit, toute chose, de lui, par lui, pour lui. Et si nous revenons dans Jean 7, Jésus est là et il annonce ceci à la foule. Et c'est Jésus qui se tient debout, il va crier, il n'exclut personne. Ce n'est pas juste à ses disciples, ce n'était pas juste aux initiés, ce n'était pas juste aux pharisiens, aux gens religieux, ce n'était pas à un groupe particulier. Mais là, il a crié pour que tout le monde entende. C'était pour tous. Et du coup, Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il appelle chacun. Bien sûr, il appelle chacun à la repentance, le salut. Mais même après le salut, Dieu continue d'appeler les chrétiens à une vie de sainteté et à une vie qui lui plaît, qui lui apporte gloire. Et chaque chrétien est appelé dans ce sens. Il n'y a nul chrétien qui ne soit exclu de sa responsabilité, parce que Dieu est à l'origine. C'est Dieu qui le fait. Et du coup, si Dieu est à l'origine, si Dieu est en train de nous appeler à autre chose qu'une vie médiocre, une vie à moitié, ben, nous avons les responsabilités face à cela. Nous ne pouvons pas dire, ben, Dieu appelle et il fera, il produit le vouloir, le faire, tout est entre les mains de Dieu, moi tranquille, je ne fais rien. Non, ça c'est l'autre extrême. Non, il y a des responsabilités face à cela. Et du coup, si nous revenons dans Jean 7, lorsque nous voyons ce que Jésus dit, eh ben, il y a plusieurs responsabilités qu'il montre. Alors, on revient et Jésus, se tenant debout, verset 37, s'écria, et le premier mot avec lequel il commence, c'est « si ». Alors, si quelqu'un a soif. Alors, qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'il y a des gens qui n'ont pas soif. Si quelqu'un a soif, ben, cela veut dire que peut-être à un moment, il n'aura pas soif. Et qu'il y aura quelqu'un qui aura soif, l'autre qu'il aura, peut-être des degrés différents de soif. Vous savez, quelqu'un qui régulièrement dans la journée boit de l'eau et tout, ben, par moment, il aura un peu soif. Mais quelqu'un qui vient de faire une course de plusieurs kilomètres, ben, il arrive au bout et lui, il a vraiment soif. Lui, il lui faut vraiment de l'eau. Okay? Et du coup, ici, en fait, Jésus dit, si quelqu'un à soif. Et c'est en fait la découverte. Se réveiller aux besoins qui existent si quelqu'un a soif. Et il ne faut reconnaître que dans notre vie chrétienne, nous avons soif. Et nous avons soif bien plus souvent que nous voudrions admettre. Et nous avons soif pas dans un sens physique. Ça, on l'a, bien sûr. Tout le monde l'a. Tout le monde expérimente ce besoin de boire. Mais dans le domaine spirituel, oui, on a soif. Et c'est le début. Parce que si quelqu'un a soif, oui, il y a un besoin qui existe. Et il nous faut reconnaître ce besoin. Parce que d'un côté, Dieu, il pourvoit tout. Dans sa grâce et dans son amour, amen, il nous donne la capacité de tout faire par sa volonté, mais trop de fois, nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous nous appuyons sur la chair, alors que, selon Jean chapitre 6, verset 33, elle ne profite pas. Selon la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, la chair est contre-productive, c'est l'esprit qui vivifie, la chair rend inutile, Romains chapitre 14, verset 23, la chair et même péché, ce corps de mort, pas le corps physique, mais cette chair, cette nature pécheresse, elle est péché. Et combien de fois nous nous appuyons là-dessus? Si nous étions honnêtes devant Dieu, nous devrions reconnaître que, oui, nous nous appuyons là-dessus. Et trop souvent, nous peinons un peu dans la vie et nous passons à côté du fait que nous avons soif spirituellement. Malgré tout ce que nous faisons, malgré toute notre connaissance de la Bible et de Dieu, il y a un manque là. Et il nous faut nous réveiller à notre besoin. Si quelqu'un a soif, et c'est là où il faut dire, moi, j'ai soif, oui. Mais ici, il continue, si quelqu'un a soif, et ce n'est pas simplement une petite soif, voilà, je prends un verre d'eau, et puis c'est bon, c'est fini. Non, ici, c'est vraiment soupirer, c'est avoir un désir ardent de combler cela. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un se trouve dans le besoin total, vous savez, vous avez vraiment, vraiment soif, vous ne pensez pas à autre chose. Vous pensez à cette verre d'eau. Ce verre d'eau qui est là, j'avais vu un sketch une fois au camp. Je ne préconise pas, hein, mais ils avaient un verre d'eau. Et puis, plusieurs campeurs sont venus pendant le sketch. Ils faisaient toutes sortes de choses avec le verre d'eau. Hein, il s'est brossé les dents et puis là, recraché dedans. Enfin, ils ont fait toutes sortes de choses avec. Et puis, à la fin, un gars, il rentre, il était tout dans le sketch, toute la journée à l'extérieur et tout. Il avait soif, mais à un tel point, il voit le verre d'eau. Et malgré tout ce qu'on avait fait, quand même, il a bu. Et on se dit, là, on est fort. Là, on est fort, parce que c'était de l'eau. Peu importe ce qu'on avait fait, c'était de l'eau, ça allait désaltérer. Parce qu'il était dans ce besoin. Il avait soif. Et sommes-nous à ce point? Avons-nous ce désir de Dieu? Ressentons-nous le même besoin à la fin de notre journée dans le domaine spirituel que si pendant toute la journée nous n'avions pas du tout bu et qu'on a exercé des efforts énormes? Aller courir, aller à un marathon sans rien boire, vous n'arriverez pas au bout. Impossible. Et celui qui fait le marathon, même en buvant tout au long, il va arriver à la ligne d'arrivée, et va avoir encore soif. Il va dire, mais donnez-moi de l'eau. Et là, notre désir doit être après Dieu, bien sûr. Allez avec moi dans Psaume 42. J'aimerais que vous voyez ce verset. Psaume 42, ceci est très fort. Le psaume 42, verset 2. Posez-vous la question, est-ce vraiment votre état d'esprit? Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je soupire, je languis après, je désire ardemment une chose, et c'est Dieu. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son besoin n'aura pas ce désir-là. Ça passe par reconnaître son besoin. Mais une fois qu'on a reconnu ce besoin, il faut qu'il y ait ce désir. Quelqu'un avait dit que le désir est la clé de la victoire chrétienne. C'est-à-dire, sans ce désir de Dieu, on n'ira jamais vers lui. On ne voudra jamais de sa présence, de sa puissance. Et il faut se poser la question, désirons-nous Dieu uniquement quand tout va mal? Bien sûr, quand tout va mal, quand on est dans des difficultés, quand nous subissons des attaques, oui, là, on désire. viens en aide. Dieu, j'ai besoin de toi. Mais quand tout va bien, quand on suit le cours normal de notre vie, avons-nous ce même désir pour Dieu? Je crains que non, et je dois l'admettre dans ma vie. Quand tout va bien, ça va, j'arrive à gérer. Mais je dois continuer à avoir ce désir. Donc je dois découvrir que oui, un besoin existe. Je dois avoir ce désir de soupirer après Dieu. Mais aussi, je dois avoir la détermination d'obéir. Revenons dans Jean chapitre 7. Et Jésus va continuer. Si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et trop souvent, si nous avons soif, spirituellement, nous allons à droite et à gauche, on cherche autre chose, on cherche le spectaculaire, on cherche un remède tout fait, tout court, et on ne revient pas à la parole de Dieu, on ne revient pas à Dieu lui-même. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est Jésus-Christ qui va pouvoir combler ce vide. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vienne à moi, prêt à obéir. L'exemple d'Ésaïe, j'en ai parlé la semaine dernière. L'exemple d'Ésaïe est extraordinaire. Qu'est-ce que j'apprécie cet exemple? Ésaïe est là. Il entend Dieu dire, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et Ésaïe ne dit pas, laisse-moi réfléchir, Seigneur, est-ce que je veux vraiment le faire ou pas? Quelles seront les conséquences? Qu'est-ce que cela va me coûter? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Qu'est-ce que je vais devoir laisser? Qu'est-ce que je gagnerai? Non, il dit, me voici, envoie-moi. Sur le champ, il dit, envoie-moi. Il ne sait pas du tout ce que Dieu va lui demander. Il ne connaît pas toutes les souffrances par lesquelles il va passer. Et pourtant, il dit, envoie-moi. Envoie-moi. Avons-nous cette même détermination? Mais nous allons dire, oui, mais si Dieu me parlait et me faisait exactement connaître sa volonté, là, je la ferais. Si Dieu me parlait, pas de problème, je lui obéirai. Et alors, la Bible, nous l'avons, la parole de Dieu, Dieu nous parle. Sommes-nous aussi promptes que Ésaïe à obéir? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Venons-nous à Jésus-Christ avec un esprit prêt à obéir. Je dois reconnaître dans ma vie, et si nous sommes honnêtes, c'est le cas pour chacun d'entre nous, nous sommes bien plus disposés à discuter qu'à obéir. Et Jésus dit, non, ce n'est pas cela. Il faut venir à moi. Rien d'autre. Rien d'autre. Et puis, non seulement il faut la détermination d'obéir, une fois qu'on a reconnu son besoin et une fois qu'on a ce désir ardent après Dieu, aussi il faut la soumission au Saint-Esprit. Et là, vous allez dire, mais Robert, où est-ce que tu vois cela? Bien sûr, le Saint-Esprit revient après, mais où est-ce que tu vois cela? Alors, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Fin de verset 37. Qu'il boive. Et ici, c'est cette eau, cette image qui vient remplir la personne. Quand vous buvez, l'eau que vous buvez vous remplit, n'est-ce pas? Elle est en vous, elle agit. Comme j'ai dit, elle désaltère, elle apporte la force, elle ranime. C'est formidable. Et c'est une image du Saint-Esprit. Jésus va parler du Saint-Esprit, verset 38, 39. Si nous pensons à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, ne vous laissez pas contrôler par le vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Littéralement, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. » Il est intéressant la formule que Paul il emploie. Ce n'est pas « remplissez-vous du Saint-Esprit », mais laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Et justement, c'est le Saint-Esprit qui nous donnera la victoire sur le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous rendra capables de servir Dieu d'une manière qui le glorifie. Et avec le Saint-Esprit, il y a lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Lorsqu'on est dirigé par le Saint-Esprit, il y a lumière. Il y a vie. C'est la loi qui a porté la mort. C'est l'Esprit qui vivifie. Mais aussi, il y a une liberté. Là où est l'Esprit, il y a la liberté. Paul va dire aux Corinthiens. Et du coup, si nous n'avons pas de victoire sur le péché, si nous ne sommes pas prêts pour le service, s'il n'y a pas lumière, s'il n'y a pas vie, s'il n'y a pas liberté dans notre vie, il faut se poser sérieusement la question, suis-je rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit faire son travail en moi? Est-ce que je suis en train de boire cette image dont Paul se sert ici? Du coup, nous devons bien sûr découvrir notre besoin. Nous devons désirer ardemment Dieu, sa personne, sa parole. Nous devons avoir la détermination d'obéir peu importe ce que Dieu nous demande. Nous devons être soumis au Saint-Esprit et tout cela peut être résumé dans cette phrase, la mort à soi. La mort à soi, parce que lorsque nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, il doit avoir le contrôle total dans notre vie, ce qui ne laisse aucune place pour ma chair, pour moi, mes pensées, mes désirs. Ces choses deviennent celles de Christ, les pensées, les désirs de Jésus-Christ. Un pasteur, une fois, il donnait une petite conférence un peu sur le Saint-Esprit, sur la prière. On lui a posé la question, mais pasteur, est-ce que Dieu vous a jamais dit non? Le pasteur, il regarde sa femme et il regarde de nouveau l'auditoire. Il dit, honnêtement, je peux dire que Dieu n'a jamais dit non à une de mes prières légitimes parce que lorsqu'on prie, par le Saint-Esprit, nous avons les désirs du Saint-Esprit et à ce moment-là, Dieu répond de manière toujours favorable aux demandes du Saint-Esprit. Du coup, il sera toujours favorable à nos désirs. Alors, si Dieu dit non, à ce moment-là, il faut revenir sur soi-même, il faut revenir sur son engagement avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit priera toujours pour les choses de Dieu. Et du coup, lorsqu'on se laisse diriger par le Saint-Esprit, cela implique cette mort à soi-même, cette mort à la chair, parce que Dieu veut le contrôle total. Jésus a bien dit, il va le dire un peu plus loin, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et du coup, cette mort à soi n'est pas simple. Il y a des désirs qui sont là, qui sont contraires aux désirs de l'Esprit, qui sont contraires aux désirs de Dieu. Alors, il y a un combat. La vie chrétienne est faite de combats. Mais des combats qui sont surmontables et loin de là, et au-delà de cela, bien sûr, avec l'aide de Dieu, il nous rend victorieux, il nous donne la victoire, comme Paul va dire aux Romains, en Jésus-Christ. Mais cela implique, bien sûr, une mort à nous-mêmes, c'est-à-dire à la chair. Et cela n'est possible, bien sûr, qu'avec une dépendance sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ ici qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et au verset 38, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Et encore une fois, bien plus qu'être d'accord, bien plus que savoir un ensemble de données, toutes ces choses. Mais si nous n'allons jamais au-delà, ben, ce n'est pas la croyance biblique. Non, il faut une dépendance totale sur Jésus-Christ, celui qui croit en moi. Et n'est-ce pas formidable de savoir que nous pouvons le faire? Il n'y a pas de fatalisme. Nous ne sommes pas voués à l'échec, à une vie à moitié. Non, il y a Jésus-Christ qui est là et qui nous appelle. Il ne désire que cette seule chose, que nous placions notre dépendance entièrement sur lui. Il nous voit peiner avec nos fardeaux, nos combats, nos luttes. Et il dit, mais mon enfant, je veux me charger de tout cela. Pourquoi est-ce que tu portes toutes ces choses? Les parents qui voient leurs enfants parfois s'encombrer avec des tâches difficiles. Et vous savez, parfois les enfants, ils veulent se montrer grands, donc ils disent, non, j'y arriverai. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était avec les bretelles. Je voulais mettre les bretelles, mais je voulais les mettre. Et puis, je me tordais dans tous les sens, je n'y arrivais pas du tout, du tout. Mais je ne voulais pas reconnaître que j'avais besoin d'aide. Ah non, 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 surtout pas. Je pouvais les mettre, j'étais assez grand pour le faire. Et finalement, quand je ne pouvais plus bouger, j'étais tellement tendu, ben finalement, oui, maman, j'ai besoin d'aide. Ok, oui, mais il aurait fallu au départ que je le fasse. Et trop souvent, ben, nous peinons, nous essayons d'avancer et Dieu nous voit avec ces choses qui pour lui ne sont rien. Il est tout puissant. Qu'est-ce qui pourrait l'encombrer lui? Rien. Mais nous nous encombrons des choses de cette vie, des luttes, des combats, la culpabilité, le péché. Et Jésus-Christ veut se charger de cela. Et il dit, mais il faut me faire confiance. Il faut placer sa dépendance, non pas sur soi-même, mais sur moi. Celui qui croit en moi. Alors, où est le problème? La puissance de Dieu? Non, absolument pas. C'est nous qui plaçons notre confiance en nous-mêmes et non pas en Dieu. Et voilà ce que nous avons à faire, parce que Dieu, il est à l'origine de tout cela. Je suis tellement content que l'homme n'a pas inventé toutes ces choses, que la Bible n'est pas une invention de l'homme, que l'Église, que ce rassemblement ici n'est pas une invention de l'homme. Qu'est-ce que je suis content que ce n'est pas le cas? Non, cela vient de Dieu, et parce que Dieu a initié toutes ces choses, voilà nos responsabilités. Et si nous manquons à ces responsabilités, ne soyons pas étonnés si nous n'avançons pas. Ne soyons pas étonnés si nous avons des soucis et des problèmes. Mais gloire à Dieu, verset 38 continue. Parce que Dieu est à l'origine, il appelle, il initie tout, il attend une réponse de la part des hommes, et lorsque les hommes répondent, regardez, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Vous avez remarqué le langage? Des fleuves d'eau vive couleront. Est-ce une certitude? Ou Jésus, ici, est-ce qu'il laisse subsister le doute? Il n'y a pas de doute ici. Il n'y a pas de peut-être, il se peut que... Non. Jésus dit, celui qui croit en moi. Et on va ajouter le verset 37. Celui qui reconnaît son besoin, qui désire ardemment le Seigneur, qui vient à lui, qui est prêt à faire sa volonté, qui se soumet au Saint-Esprit, qui meurt à lui-même chaque jour, place sa confiance en Dieu, à ce moment-là, Dieu promet et Dieu est fidèle. Dieu tient toujours ses promesses. Il promet de faire couler de lui ses fleuves d'eau vive. Alors, s'il n'y a pas de fleuves d'eau vive qui sortent de nous, quel quelle est la conclusion qu'il faut en tirer? Le problème, est-il du côté de Dieu? Non, bien sûr que non. Et pourtant, parfois, peut-être on se laisse glisser un peu dans cette pensée. Mais non, le problème, c'est que c'est nous qui ne nous plaçons pas là où il faut. Notre confiance est en nous-mêmes et non pas en Dieu. Notre confiance est peut-être dans quelqu'un d'autre, dans une expérience, dans autre chose et non pas en Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, voilà le résultat. Alors, si on n'a pas le résultat, cela veut dire qu'on n'a pas cru. Et ces fleuves d'eau vive qui couleront de son sein, c'est-à-dire de son fort intérieur, vont pouvoir se répandre en dehors et vont pouvoir bénéficier à tous ceux qui entourent. Et du coup, verset 39, il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir, ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore et l'a donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus nous montre que son but, c'était de préparer ses disciples à recevoir le Saint-Esprit. Il veut, et il voulait, et il leur dit dans Actes chapitre 1, ben c'est le Saint-Esprit qui allait les rendre capables d'être ses témoins. Et du coup, Jésus montre que cette capacité d'affecter, d'avoir un impact sur les autres, doit commencer avec notre propre relation avec Dieu, mais ne doit pas rester là. Cette relation que nous avons avec Dieu doit se voir à l'extérieur, doit impacter les autres. Quelqu'un avait dit une fois, l'œuvre de Dieu n'est pas notre travail pour lui, mais plutôt son travail à travers nous pour toucher les autres. Et il est extraordinaire que ici, Jésus, en se servant de cette image de l'eau, du Saint-Esprit, nous montre que nous sommes des canaux de Dieu. Des canaux dont Dieu se sert pour répandre son esprit partout. Il est intéressant, à plusieurs reprises, des anges se sont manifestés à des hommes, mais les anges n'ont jamais témoigné. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Corneille. Un ange lui apparaît, il a cette vision, et au lieu de lui annoncer l'évangile, ce que, bon, je pense que l'ange serait capable de faire, il aurait pu aligner les vérités les unes derrière les autres. Non, il dit, appelle chez un tel, envoie quelqu'un là, et appelle quelqu'un qui se nomme Pierre. Lui, il viendra et il te dira ce qu'il faut faire. Alors, cet ange, ben, pourquoi est-ce qu'il n'a pas témoigné? Ben, parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi les hommes de le faire. Et les hommes, là, j'entends le genre humain, les hommes, les femmes, les chrétiens, ceux qui sont réellement passés par la nouvelle naissance. Et Dieu promet de nous rendre fructueux, promet que nous aurons un impact, qu'il y aura ces fleuves d'eau vive qui vont couler de nous lorsque nous dépendons sur lui. Et à ce moment-là, nous devenons des canaux de Dieu. Le Saint-Esprit se répand, il se voit autour de nous. Et à ce moment-là, nous apportons gloire à Dieu. À ce moment-là, nous mettons en évidence et nous manifestons ces versets. La grande question à se poser, c'est où est-ce que j'en suis? Il faut se poser la question, est-ce que j'ai un impact sur les autres? La question à se poser, c'est quand je sors le lundi, quand je vais au travail, quand je vais au magasin, lorsque je suis avec la famille, est-ce qu'il y a ces fleuves d'eau vive? Est-ce que les gens peuvent regarder ma vie et dire, par telle ou telle parole, par telle ou telle réaction, par telle ou telle attitude, là, je vois il y a quelque chose de différent. Comme Spurgeon, cet homme qui était venu l'écouter et qui a dit, en fait, je n'ai pas vu Spurgeon. Il était tellement rempli du Saint-Esprit, j'ai vu Jésus-Christ. Sommes-nous comme cela? Parce que Dieu promet, dans sa parole, de nous rendre comme cela. Mais il y a des conditions. Sommes-nous prêts à remplir ces conditions? Ou sommes-nous plus réticents, hésitants? La promesse de Dieu est certaine. Il fera son côté. Il fera le nécessaire. Maintenant, à chacun de nous, le choix de faire ce que lui le demande de nous. Et lorsque nous revenons à ces versets, et on se dit au verset 37, que je dois reconnaître que j'ai soif, même en tant que chrétien, ben, on peut avoir soif spirituellement. Nous sommes tous passés par cela. Et à ces moments-là, de revenir à Dieu, et avec le psalmiste dire, je soupire après Dieu. J'ai cette soif de lui. Et puis placer entièrement sa dépendance sur Jésus-Christ, avec l'obéissance, sans dire, oui, mais je le ferai si... Non, non, non. Entière obéissance à Dieu, une entière dépendance sur lui. Et à ce moment-là, Dieu va pouvoir agir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une formule magique. On dit quelques mots et puis c'est tout. Non, c'est une vérité divine, spirituelle, où Dieu, lui, il s'engage à opérer de cette façon. Et il dit à ses enfants, je veux répandre cette eau. Je veux que cette eau coule de vous. Mais il y a des conditions. Sommes-nous prêts à remplir ces conditions? J'espère que oui. Y a-t-il des changements qui doivent s'opérer dans notre vie? Sûrement. Devons-nous passer plus de temps dans la parole? Sûrement. Devons-nous passer plus de temps dans la prière? Probablement. Est-ce qu'il y a des habitudes qui doivent changer? Oui, probablement. Demandons à Dieu l'aide pour le faire. Parce que nous voulons avoir un impact. C'est ça la vie que Dieu a pour nous. Oui, pour nous fortifier nous-mêmes, mais aussi pour que cela ait un impact sur les autres. Si vous n'avez pas d'impact sur les autres, on peut de manière légitime se poser la question, ben, qu'est-ce que l'on fait? Dieu veut que l'on ait un impact sur les autres. Alors, quel est votre impact? Où sont les eaux vives qui coulent de vous? Y en a-t-elle? Sinon, ben, voilà, Jésus dit, voilà ce qu'il faut faire. Faisons-le. S'il y en a, ben, gloire à Dieu que cela continue. Mais prenons cette décision aujourd'hui, soit de continuer à suivre ce que Jésus dit dans ces versets de manière continuelle, ou bien de commencer, si ce n'est pas encore le cas, de commencer, et que ainsi toute la gloire lui revienne, parce que ce sera son travail, fait à travers nous, qui va le glorifier à tout moment. Prions. Oui, Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons notre réticence et notre hésitation. Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu puisses continuer de nous transformer, que tu animes en nous le désir de suivre ces préceptes, de faire ce choix, de remplir nos responsabilités, Seigneur, que tu attends de nous, qui sont logiques de ta part. Et Seigneur, que tu puisses travailler dans le cœur de chacun, ici ce matin, que tu nous fasses grandir en toi, et qu'il y ait ces eaux qui se répandent, que nous ayons un impact sur notre famille, sur nos frères et sœurs en Christ, sur tous ceux qui nous entourent, Seigneur, et que cela puisse